L'heure du journal, présentée par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé et bonsoir à tous. Une photo historique mais des engagements flous, c'est le bilan du sommet qui a réuni Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour. Nous y reviendrons avec notre envoyé spécial Grégory Phillips. L'Union européenne et la France embarrassées par le refus italien d'accueillir les migrants secourus par l'Aquarius. Emmanuel Macron dénonce le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie, mais il est lui-même critiqué pour son silence. Les députés poursuivent leur débat sur la réforme de la formation. Ils se penchent notamment sur la refonte du compte professionnel de formation. Et puis un plan de 10 millions d'euros contre les sargasses, ces algues brunes polluent depuis plusieurs mois les rivages des Antilles. Le président américain serrant la main du leader nord-coréen. C'est la photo du jour relayée à travers le monde entier. Une photo dont on se demandait il y a quelques jours encore si elle pourrait être prise, tant Donald Trump et Kim Jong-un ont su se montrer imprévisibles jusqu'à présent. 40 minutes de tête-à-tête donc et une déclaration conjointe dont la formulation reste assez vague. Grégory Phillips, vous avez suivi la conférence de presse du président américain à l'issue de cette rencontre.
La conférence de presse du président américain débute par cette vidéo promotionnelle en anglais et en coréen.
Featuring President Donald Trump and Chairman Kim Jong-un.
Musique grandiloquente, Trump et Kim présentés comme des stars de cinéma. Outils de propagande réalisés par la Maison Blanche pour montrer au monde et à la Corée du Nord tous les développements possibles si Pyongyang s'engage sur le chemin de la paix. Le film qui dure quelques minutes est produit comme un clip hollywoodien et Trump révèle que le matin même, il l'a montré à Kim Jong-un et à sa délégation. Il a regardé ça sur notre iPad et je peux vous dire qu'ils ont vraiment apprécié, je crois en tout cas. Puis le président américain se félicite de cette journée qu'il qualifie d'historique. Je me présente devant vous en tant qu'émissaire du peuple américain qui vient délivrer un message d'espoir et de paix et une vision. Ma rencontre avec Kim a été honnête, directe et productive. On a appris à bien se connaître sur un laps de temps très court. Trump dit encore qu'il trouve le maître de Pyongyang extrêmement talentueux et qu'il lui fait confiance. Mais le président américain balaye d'un revers de main les questions des journalistes qui lui font remarquer qu'il n'y a aucun calendrier pour la dénucléarisation nord-coréenne. On verra ça plus tard, dit Trump. Tout heureux d'avoir réussi ce qui paraissait encore impossible il y a encore quelques mois.
Grégory Phillips à Singapour. Marie-Cécile Nave, chercheuse associée à l'IRIS, était l'invitée du journal de 12h30. Auteur du livre « Trump, la revanche de l'homme blanc » paru aux éditions textuelles, elle analyse la posture du président américain à Singapour.
Là, on est dans une opération de communication de part et d'autre absolument grandiloquente, avec des clips vidéo, avec Donald Trump qui montre sa gigantesque limousine à Kim. Ce que je crois, est-ce que la presse américaine dit, il y avait notamment un article très intéressant du rédacteur en chef de The Atlantic hier qui dit, en citant plusieurs officiels de la Maison Blanche, « Nous sommes la fuck Obama doctrine ». C'est-à-dire qu'il y a dans la volonté de Trump à l'international de faire exactement le contraire d'Obama, à la fois dans le style, c'est-à-dire refus des discussions longues, coups d'éclat, communication très viriliste, et puis dans les politiques menées, dans le fait d'aller être défié par le dictateur nord-coréen, il n'a pas peur d'aller au contact des hommes forts. Et effectivement, on a l'impression que Trump a plus de respect pour quelqu'un comme Kim Jong-un, qui ne cherche pas à le flatter, qui ne cherche pas à trop adoucir sa position, que dans les partenaires occidentaux historiques. C'est vraiment tout à fait frappant de voir en quelques jours comment il a traité Justin Trudeau, Emmanuel Macron et Angela Merkel en refusant de signer une déclaration commune où on parle de paix, de démocratie, de valeurs humanistes. Et là, il signe en quelques heures un texte qui certes parle de paix et de prospérité, mais c'est quand même un texte signé avec un dictateur qui n'hésite pas à assassiner les membres de son entourage quand ils sont trop gênants.
Marie-Cécile Nave répondait à Antoine Mercier. L'accord conclu entre Donald Trump et Kim Jong-un est accueilli par des réactions positives mais souvent prudentes. Séoul qualifie l'événement d'historique mais demande des précisions sur l'arrêt des exercices militaires conjoints avec les États-Unis. Manifestement, la Corée du Sud n'avait pas été prévenue de cet arrêt. Pékin se félicite de l'accord, rappelant que la Chine avait elle-même contribué aux préparatifs de ce sommet. L'Aquarius, avec à son bord 629 migrants, se dirige vers l'Espagne. Le bateau humanitaire doit parcourir plus de 1500 km pour atteindre le port de Valence, après le refus de l'Italie et de Malte de le laisser accoster. Le changement d'attitude de l'Italie, qui a accueilli plus de 640 000 migrants et réfugiés au cours des 5 dernières années, met dans l'embarras l'Union européenne. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Aurélie et bonsoir à tous.
Les difficultés rencontrées par l'Aquarius soulignent l'urgence pour les Européens de s'accorder sur une politique commune. commune.
Il semblerait que chez les Européens, la ligne de fracture soit double. D'abord, entre les pays du Sud, directement exposés aux flux migratoires, et ceux de l'Est et du Nord, dénués de solidarité, aussi bien vis-à-vis des réfugiés qu'à l'égard de leurs partenaires méridionaux de l'UE. Ensuite, entre les gouvernements populistes de droite ou de gauche, comprenez l'Italie et Malte, et les gouvernements de centre-gauche, lisez l'Espagne. Ceci ne prédispose évidemment pas à redéfinir rapidement à 28 la réglementation dite de Dublin III, conçue à une autre époque et dont l'inadéquation à la situation actuelle saute aux yeux. Pourtant, seule une ligne claire et coordonnée entre les impératifs de l'immigration légale, de l'aide au développement économique des pays d'origine des migrants et de la protection des frontières extérieures de l'UE est susceptible de désamorcer durablement cette crise où, comme jamais auparavant, l'Europe joue son unité, sa crédibilité et son âme. Pour beaucoup ici, le sort de l'Aquarius, lesté au-delà du raisonnable d'une cargaison humaine, fuyant les atrocités et à la recherche du pays du bonheur rêvé, errant de côte en côte et rejeté de port en port, eh bien cela ressemble vraiment beaucoup à l'Odyssée de l'Exodus qui, en 1947, transportait plus de 2000 juifs d'Europe centrale, rescapés des camps de la mort, vers la terre promise qu'était pour eux la Palestine, alors sous mandat britannique. L'Exodus 47 fut pris en chasse et prôné, et parvenu sous escorte au port de Haïfa, ses occupants furent aussitôt rembarqués au bord de trois navires anglais qui, au terme d'une longue et inconfortable croisière, les redéposa sur un quai en Allemagne.
Quentin Dickinson, en direct de Strasbourg. Emmanuel Macron était resté silencieux hier en Conseil des ministres. Le chef de l'État s'en est pris au gouvernement italien, dont il a dénoncé la part de cynisme et d'irresponsabilité. Écoutez le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Il n'est pas question de créer un précédent qui permettrait demain à des pays européens de se défausser sur leurs partenaires européens. Nous devons faire preuve sur ce sujet de solidarité entre les États membres de l'Union européenne, ce que n'a pas fait le gouvernement italien. Quand vous vous substituez aux autorités libyennes pour prendre un bateau, que le bateau est à proximité de vos côtes, que vous le laissez approcher pour lui dire, quand il est en proximité totale de vos côtes, qu'il ne peut pas accoster, oui, j'y vois là une forme de cynisme et une part d'irresponsabilité. Ce qui est inacceptable dans cette situation, c'est le comportement et l'instrumentalisation politique qui en a été faite par le gouvernement italien. Vous le savez, le président du Conseil Conte sera à Paris vendredi pour rencontrer le président de la République et il est évident que ces discussions seront à l'ordre du jour. Sachez que la France n'est pas restée inactive ces 24 dernières heures, comme vous l'imaginez. Le président de la République s'est entretenu avec la Commission européenne hier et il s'entretiendra aujourd'hui avec les autorités maltaises, espagnoles et italiennes.
Benjamin Griveaux. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, demande à Rome de revenir sur sa décision. Édouard Philippe, devant l'Assemblée nationale, précise que la France est prête à aider les autorités espagnoles pour accueillir et analyser la situation de ceux qui, sur ce bateau, pourraient vouloir bénéficier du statut de réfugié. Des déclarations tardives qui ne répondent pas aux reproches faits par la gauche et par certains membres de La République En Marche, Stéphane Robert.
Oui, en fait, cet épisode du bateau Aquarius empêché d'accoster sur les côtes italiennes fait ressurgir le débat politique qui s'est tenu en France il y a quelques semaines à l'occasion du vote de la loi Asile et Immigration. On retrouve d'un côté la gauche qui se revendique dans l'opposition à Emmanuel Macron avec les élus de la France Insoumise, du Parti Communiste, du Parti Socialiste, qui au nom de valeurs humanistes et universalistes disent ne pas comprendre que la France n'accueille pas ce bateau dans un de ses ports. Ce n'est pas une question juridique ou de droit international, dit-il, c'est une question d'éthique et de morale. Et dans cette même veine, avec ce même discours, on a aussi une petite frange de députés de la majorité En Marche à l'Assemblée nationale, qui sont en fait pratiquement les mêmes que les députés qui s'étaient fait entendre à l'occasion des discussions sur la loi Asile-Immigration. Sonia Crimi, Brigitte Bourguignon, Saïd Ahamada, Sébastien Lado, Anne-Christine Lang. Au total, ils représentent une trentaine de députés sur un peu plus de 300. En face, il y a la droite, associé sur cette question à l'extrême droite, qui explique qu'il ne faut évidemment pas les accueillir, que ça va créer un appel d'air et qu'ils doivent retourner d'où ils viennent, en Libye ou en Tunisie. Et au milieu, on a le gouvernement français, avec la plupart des élus de la majorité, bien embarrassé par le problème qui vient de surgir, parce que d'un point de vue politique, après avoir durci les conditions d'accueil des migrants en France, il est très difficile d'ouvrir les portes du pays à tous ces migrants, sauf à donner l'impression de se renier. Et parallèlement, en vertu d'un humanisme que revendique aussi Emmanuel Macron, il est difficile de laisser les autres s'en charger. On a donc cette position d'entre-deux où la France dénonce la décision italienne et déclare en même temps apporter son aide à l'Espagne. Tout ça cache mal un vrai malaise et surtout l'absence d'une volonté politique au niveau européen de se saisir du problème.
Stéphane Robert, au Royaume-Uni, le sujet casse-tête, c'est toujours le Brexit. Les députés britanniques ont entamé aujourd'hui un nouvel examen du projet de loi sur le retrait de l'Union européenne, un texte qui doit mettre fin à la suprématie du droit européen sur le droit britannique et organiser la transposition de certaines réglementations européennes. Et il s'agit d'une séance politique à haut risque pour la première ministre britannique, Antoine Jignot, puisque Theresa May est confrontée à la menace d'une rébellion des conservateurs pro-européens.
Absolument, c'est un vote crucial. Ce que réclament les députés rebelles, c'est un droit de regard sur le futur accord entre Londres et Bruxelles. Ce texte qui est en train d'être négocié par David Davis, le ministre du Brexit, et Michel Barnier, qui représente l'Union européenne. Les députés frondeurs veulent que le Parlement puisse l'examiner, quitte à renvoyer le gouvernement à la table des négociations si, à l'automne prochain, les termes de l'accord ne leur semblent pas satisfaisants. Alors jusqu'ici, c'était un scénario totalement inenvisageable pour Theresa. Mais la première ministre a même tenté ces derniers jours de taper du poing sur la table. Elle a demandé aux conservateurs de voter groupé. Mais ce matin, le secrétaire d'État à la justice a démissionné avec cette phrase « On ne peut pas choisir entre mauvais et pire ». Le Daily Telegraph affirme que 4 autres ministres sont prêts à démissionner. Résultat, le gouvernement pourrait pour la première fois faire des concessions, pas en donnant les clés de la négociation sur le Brexit aux parlementaires, mais en leur offrant la possibilité de se prononcer. Pas encore de détails sur le sujet, mais les rebelles semblent avoir entendu le message. La situation s'est légèrement apaisée au Parlement. Pour le moment, le vote n'a pas encore eu lieu, mais dans les rangées de la Chambre des communes, la tension est un peu retombée. Tension palpable à l'échelle du pays. Ce matin, les tabloïds faisaient la une sur le sujet avec cet avertissement à destination des parlementaires. Si vous ignorez la volonté du peuple, ce sera à vos risques et périls.
Antoine Jignot, en direct de Londres. Un an après la réforme du Code du travail, l'Assemblée planche sur l'acte 2 de la rénovation du modèle social voulu par le gouvernement. Les débats ont débuté hier soir sur le projet de loi sur l'avenir professionnel, un texte très vaste dont l'examen va durer toute la semaine. Il sera question de l'assurance chômage, de l'apprentissage, de l'égalité salariale. Mais pour l'instant, Catherine Pétillon, les députés travaillent sur la réforme de la formation professionnelle.
Oui, avec ce premier volet, l'objectif affiché par le gouvernement, c'est de renforcer les droits à la formation tout en rendant chaque salarié responsable de son parcours professionnel, notamment via son compte personnel de formation, le CPF. Or, la première disposition a d'emblée fait débat. La loi prévoit que les salariés n'auront plus droit à un certain nombre d'heures, comme actuellement, mais à une somme, 500 euros par an crédité à chacun, 800 pour les salariés non qualifiés, avec des plafonds de 5 000 et 8 000 euros. Cette monétisation a été introduite par le gouvernement, qui juge cela plus simple, en dépit de l'opposition des syndicats et du patronat. Alors voilà un changement qui peut paraître technique, mais aux conséquences importantes pour chaque salarié. Actuellement, quand vous disposez de 100 heures de formation sur votre CPF, vous pouvez les effectuer quel qu'en soit le prix. Demain, si ces 100 heures de formation coûtent 4 000 euros et que vous en avez 500 sur votre CPF, alors qui paye? Étant donné le coût réel d'une heure de formation, cela renforcera les inégalités sociales et professionnelles, a déploré l'opposition, gauche en tête. Et ces discussions constituent en fait à elles seules une bonne illustration des options politiques qui feront débat autour de cette loi dans son ensemble. En quoi dire que c'est aux salariés de décider constitue-t-il une dépendance vis-à-vis du marché, a insisté Muriel Pénicaud. Je trouve qu'il y a un peu de condescendance, voire de mépris, à penser que nos concitoyens ne sont pas capables de décider pour eux-mêmes, a poursuivi la ministre du Travail. Réponse du député France Insoumise Adrien Quatennens. En individualisant tout, vous dites responsabiliser les salariés. En fait, vous déresponsabilisez l'employeur et à bien des égards la société. Ces conceptions seront débattues via les 2000 amendements déposés.
Catherine Pétillon, penchons-nous un instant sur la formation des enseignants. Selon une étude de l'OCDE, les pays dont les systèmes éducatifs sont les plus performants sont ceux dont les professeurs ont bénéficié d'une période obligatoire et étendue d'expérience pratique pendant la formation initiale et d'ateliers de formation continue, souvent réalisés au sein de l'établissement scolaire pour que les séances répondent aux besoins réels des enseignants. Les conclusions de l'OCDE vont dans le sens du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui prévoit une révision de la formation dans les prochains mois. Pour le secrétaire général de l'UNSA, Stéphane Crochet, l'important c'est de former les enseignants en amont dès la licence.
On a remis en place les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, mais pour autant, dans les faits, on reste beaucoup trop centré sur une seule année de stage pour la formation initiale, alors qu'on a besoin de se confronter à la situation professionnelle dès la licence, en rencontrant la situation professionnelle, puis après tout au long du master, puis après même dans les premières années de l'entrée dans le métier. On a besoin d'être beaucoup plus ancré sur les réalités du concret, de la classe, et pas vouloir tout faire en une année, on n'y arrive pas. En licence, il faut rester modeste, mais il faut le faire quand même. Je pense qu'on pourrait avoir quelques modules qui permettent de mieux comprendre le métier d'enseignement, et puis quelques stages courts, mais quelques-uns quand même, en situation d'enseignement. Ça permettrait aux étudiants de valider ou d'invalider leur projet de devenir enseignant. Puis après, pendant l'année de Master 1, il faut être beaucoup plus en situation professionnelle. Et puis à nouveau pendant l'année de Master 2. Et puis pendant la première année de titularisation, il faut aussi continuer à être accompagné.
Stéphane Crochet de l'UNSA répondait à Hakim Kasmi. L'INSEE confirme un ralentissement de l'emploi au premier trimestre, mais public et privé confondus, l'emploi est toujours dans le vert sur un an. La France a créé 288 200 emplois salariés, soit plus 1,2%. L'indicateur est également à un plus haut historique dans le seul secteur privé, plus 1,6% sur un an. De bons chiffres donc, mais ça ne va pas forcément durer, Hugo Chesinski.
Oui, pour l'instant, les chiffres sont bons, mais il faut les mettre en perspective. Ils sont bons si l'on prend en considération la conjoncture économique du moment. Le début de l'année 2018 n'a pas été une période faste pour l'emploi, fin de l'aide à l'embauche, disparition des contrats aidés et des effets du CICE qui se sont atténués. Pourtant, malgré ce contexte et cette croissance de seulement 0,3% au premier trimestre, 48 800 emplois ont tout de même été créés. Certains économistes s'attendaient même à un ralentissement plus fort, plus significatif. Alors il y a deux hypothèses. Soit le marché du travail français fonctionne bien, soit il y a un décalage entre la croissance et la création d'emplois. C'est un pari qui est fait par les entrepreneurs. Soit la croissance repart à la hausse et ils auront eu raison de continuer à créer de l'emploi, soit la croissance stagne et dans ce cas-là, ils devront licencier. 48 800 emplois créés donc, mais ce chiffre ne correspond pas pour autant à la disparition de 48 800 chômeurs. La population active est en nette augmentation, les seniors décalent leur départ à la retraite du fait de la réforme de 2010, tandis que les jeunes arrivent, eux, sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, il faudrait la création d'à peu près 35 000 emplois par trimestre pour que soient absorbés uniquement les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi.
Hugo Chesinski, merci. Le blocus des dépôts de carburant et de raffinerie continue. La FNSEA et les jeunes agriculteurs poursuivent leur mouvement contre l'importation de produits agricoles qui ne respectent pas les normes françaises. Leurs représentants rencontraient cet après-midi Stéphane Travert au ministre de l'Agriculture, mais aucun accord n'a été trouvé. En déplacement en Guadeloupe, puis en Martinique, Nicolas Hulot et Yannick Girardin ont annoncé un plan de 10 millions d'euros sur 2 ans pour lutter contre les sargasses, ces algues brunes nauséabondes et toxiques qui polluent les rivages des Antilles depuis plusieurs mois. Le ministre de la Transition écologique et sa collègue chargée des Outre-mer ont constaté l'ampleur des dégâts dans les îles de Guadeloupe, la Désirade, Marie-Galante et les Saintes. Début mai, ces îles avaient été partiellement coupées du monde car les algues bloquaient les hélices des bateaux dans les ports. Depuis février, ces algues s'amoncellent sur les rivages. Véronique Rebérotte.
Les sargasses ont fait leur apparition dans les Antilles françaises en 2011, des algues brunes gélatineuses qui prolifèrent jusqu'à former désormais 2 mers de sargasses. La première avait été localisée dans l'océan Atlantique entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Une deuxième, plus récemment, a été repérée entre l'Amérique centrale et l'Afrique. Leur origine, c'est une des théories, pourrait être l'agriculture intensive au Brésil et ses écoulements d'engrais dans l'océan. L'invasion se poursuit irrémédiablement depuis des années avec ses conséquences sur le tourisme dans la zone Caraïbe et des effets sur la santé des résidents. En cause, l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique pour les humains que dégagent les algues en putréfaction. L'argent débloqué par l'État servira en priorité à financer des opérations de ramassage en partenariat avec l'Europe et les collectivités concernées. Ramassage rapide dès la saison prochaine, dans les 48 heures, car c'est au-delà de ce délai que se dégagent les gaz toxiques. Des fonds seront destinés à l'achat de matériel de déblayage pour les communes touchées. Le plan de l'État comprend aussi le déploiement de 22 capteurs en Guadeloupe et en Martinique. Ils permettront d'anticiper les échouages, de mesurer les dégagements toxiques pour permettre aux collectivités d'émettre des bulletins quotidiens. Une étude scientifique doit parallèlement être lancée dès le mois prochain pour mieux documenter la composition des sargasses et envisager des pistes de valorisation.
La CFDT Cheminots appelle à suspendre la grève pendant les épreuves du bac dans les trains du quotidien, TER et RER. Le quatrième syndicat de la SNCF se dit en colère et mobilisé, mais aussi responsable. Et il juge important de faciliter les déplacements des candidats. Il appelle donc les cheminots concernés à ne pas participer au mouvement de grève le lundi 18 juin et le vendredi 22 juin. Demain, 3 Transiliens sur 5, 1 TER sur 2, 1 Intercité sur 2 et 2 TGV sur 3 circuleront. 18 départements sont toujours en vigilance orange aux orages, pluies ou inondations, mais le temps va s'améliorer demain et le soleil s'imposera largement l'après-midi. Seules les Pyrénées conserveront un temps couvert et pluvieux. Pas de gros changements concernant les températures. Les maximales varieront entre 18 et 22 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 21 à 24 plus au sud, 25 à 28 pour le pourtour méditerranéen. Ce journal a été préparé avec Jean-François Brune.